Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonjour maître Jean-Claude Katende. Voilà, apparemment il n'est pas encore là. En ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, il est journaliste à la Radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Bonjour Ruben Lukumbuka.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Bonjour Benoît Feit.
Oui, bonjour Guy, bonjour aux autres invités, ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices de Radio Okapi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes d'un regard sur la toute de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Jean-Claude Katende. Il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. En ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, il est journaliste à la Radio France internationale Kiswahili à Nairobi. Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir les approches régionales et internationales pour régler la crise entre la RDC et le Rwanda. La CPI lance une demande à la soumission d'informations sur la situation sécuritaire en RDC. Et enfin, libération de l'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Wondo. Mais nous allons commencer par mettre un commentaire au sujet de la requête de la Première ministre à l'endroit de l'Inspection générale des finances pour la réduction du train de vie des institutions. En effet, Madame Judith Souminois encourage l'IGF à travailler minutieusement pour une réduction effective du train de vie des institutions au bénéfice des efforts du gouvernement à combattre les forces d'occupation dans la partie est de la RDC. Au cours d'un échange, mercredi 5 février, avec l'inspecteur général chef de service, Jules la Linguette, l'option de renforcer les contrôles des finances publiques et encadrer les dépenses conformément aux instructions du chef de l'État a été levée. Maître Jean-Claude Katende, est-ce que vous êtes là?
Je suis là. Bonjour à tout le monde qui intervient dans cette émission. Je suis là.
Bonjour Maître Jean-Claude Katende. Et Maître Jean-Claude Katende, la Première ministre veut obtenir la réduction du train de vie des institutions politiques en mettant l'IGF à profit. Comment vous réagissez à cette démarche de la Première ministre, Maître Jean-Claude Katende?
Je pense que compte tenu du travail qui a été fait par l'Inspection générale des finances les quelques dernières années, l'associer à cet effort est un bon choix opéré par la Première ministre. Et comme vous l'avez dit, on doit dégager des fonds pour n'est-ce pas, l'effort de guerre. Mais je pense là aussi, il faudra, parce que depuis un certain temps, les dépenses de l'armée ne font l'objet d'aucun contrôle, ni de la part de l'Inspection générale des finances, ni de la part, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. Et cela a fait que vous avez vu vous-même que nos militaires, pour la plupart d'entre eux, n'avaient pas de gilets pare-balles, n'avaient pas des casques qui pouvaient les protéger, des casques modernes qui pouvaient les protéger contre les balles de l'ennemi. Et donc, nous apprenons aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas du domaine militaire, qui interviennent dans les achats des armes et munitions. Nous pensons que l'implication de l'IGF ne va pas seulement s'arrêter, si on veut faire un travail conséquent, à pouvoir aider à la réduction du train de vie des institutions, mais ce travail doit se poursuivre pour que les fonds qui sont alloués à l'armée puissent être utilisés utilement et que les gens ne détournent pas cet argent pour acheter des armes qui ne sont pas modernes et qui sont vieilles. Donc, il faut que la logique de la première ministre aille très loin pour permettre à ce qu'il y ait une certaine efficacité et que les fonds dégagés ne soient pas utilisés à autre chose qu'à l'armée. Et dans ce cas-là aussi, il faut qu'on achète des choses qui puissent permettre à nos militaires de jouer pleinement leur rôle. Parce que ce que nous avons entendu parler vrai ou faux est quand même décourageant. On a dépensé plusieurs milliers de dollars dans ce domaine-là, mais sur terrain, on voit que c'est autre chose.
Merci, Ruben Lukubuka. Cette décision de réduire les trains de vie des institutions politiques intervient en plein exercice budgétaire. Sera-t-il possible de parvenir à cette réduction des trains de vie des institutions sans pour autant procéder à des coupes, sans pour autant, n'est-ce pas, réduire les ressources affectées à chaque institution politique?
Écoutez, moi je pense que cela est très possible. D'ailleurs, je salue en passant mon co-débatteur Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme et Assadou. Ça faisait un peu longtemps qu'on n'a pas eu à se communiquer ou à se parler. Eh bien, tel qu'il a dit, c'est un bon choix, c'est vrai. Dégager des fonds pour l'effort de guerre. Et vraiment, il est honteux de voir comment nos militaires s'adonnent. Ils sont d'ailleurs sont des vaillants. Ah, mais ils s'adonnent pour faire du travail abattu, comme ils l'ont toujours fait, mais dans quelles conditions, hein? Donc, franchement, ça fait pitié de voir un militaire qui est dans les champs de bataille, sans casque, des gilets antibales vraiment qui datent de très longtemps. Moi, je pense que selon votre question, il est possible de le faire, et réduire les trains de vie, et si jamais il y a tout d'abord la discipline et l'autodiscipline et aussi le patriotisme tel qu'a fait montre nos militaires sur les champs de bataille. Ils s'adonnent vraiment, vous sentez que ces gens sont, ils ne manquent que la motivation, mais en tout cas ils sont prêts pour sacrifier leur vie justement pour arriver à défendre l'intégrité même territoriale. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on on attend, tout ce qu'on on est en train de vivre en RDC, sur le champ de bataille, c'est déplorable. Et vous avez d'ailleurs vu combien de sociétés civiles, des organisations non gouvernementales, des populations se sont données pour contribuer ou bien pour, disons, chercher même la nourriture et envoyer à nos militaires sur le champ disons, des batailles. Ah non, franchement, ça devenait quelque chose de honteux pour un grand pays comme la RDC. Hein, voilà. Mais moi, je pense que ce que Madame Judith Souminois a encouragé, là, c'est vraiment un bon choix et ça arrive à un bon moment. Mais c'est vraiment avec beaucoup de retard.
Merci. Benoît Faït, quel pourrait être le mérite de cette requête de la Première ministre à l'endroit de l'Inspection générale des finances?
Mais écoutez, ce que moi je pense ici, c'est qu'elle a le mérite, cette requête, de souligner un mal que l'on connaît depuis déjà bien longtemps. Vous parlez du train de vie de l'État, on sait à quel point il occupe déjà une bonne partie du budget de la République démocratique du Congo. Et ce train de vie, on va dire, des élites, il a toujours posé problème. C'est d'autant plus flagrant aujourd'hui quand on voit l'état d'extrême pauvreté de la population. C'est d'autant plus choquant parfois de voir la richesse et le faste de certaines élites, qu'elles soient politiques, on peut parler des députés, mais aussi de hauts fonctionnaires notamment. Donc nommer le mal est une excellente chose, tenter d'aujourd'hui le faire parce que l'effort de guerre le nécessite, c'est sans doute un moment opportun. J'ose juste espérer que ça laissera des traces par après, que l'objectif de réduire le train de vie de l'État va être poursuivi même après l'effort de guerre, en espérant que ça ne se prolonge pas trop longtemps. Mais oui, on va certainement dans le bon sens, mais il était temps d'agir, c'est sûr.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Lekela Mwadi, une chanson de Tchalamwana, et on revient juste après.
Oui, Kaladin Kenenawa Kwatakomokoso. Kabuya!
Ya sí, boca, mira, le queda bien. Bueno, le queda bien.
c'était Lekelamwadi de Tchalamwana. Lekelamwadi qui signifie ne pleure pas. On rappelle que Tchalamwana nous a quittés le 10 décembre 2022 ici à Kinshasa. Paix à son âme. On revient à la côté de cette semaine, le sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC s'est ouvert ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie. D'abord, la réunion interministérielle avant le sommet proprement dit des chefs d'État ce samedi. Le président congolais Félix Tshisekedi va bel et bien y participer. Selon Tina Salama, sa porte-parole, qui l'a confirmé à Radio Okapi, le chef de l'État s'attend notamment au retrait immédiat de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Riben Lukumbuka, vous êtes journaliste à la Radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler des approches régionales et internationales pour régler la crise dans l'Est de la RDC. On vous écoute.
Merci beaucoup, Guy, c'est vrai. Nous sommes en train de suivre de près, disons depuis l'ouverture de ce sommet conjoint entre l'EAC et la SADC à Dar es Salaam en Tanzanie, qui a ouvert ses portes ce vendredi avec les ministres des Affaires étrangères, et que ce samedi ce sont les chefs d'État de l'EAC et de la SADC qui vont se retrouver. Comme vous l'avez dit, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, selon Tina Salama qui l'a confirmé, sera là. Eh bien, nous avons vu combien et comment les organisations régionales d'Afrique, de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. Il y a William Ruto, président du Kenya et président de l'EAC, qui a annoncé qu'il est heureux d'entendre que le président Félix Tshisekedi, le président du Rwanda, Kagame, seront là. Mais une chose, c'est que on espère, cette fois-ci, on espère que ces institutions régionales viendront avec la solution pour la paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a deux processus qui seront mis à table, le processus de Nairobi et celui de Luanda. Mais hier, j'étais au bureau du facilitateur du processus de Nairobi, l'ancien président Uhuru Kenyatta, où j'ai lu dans les rapports qu'ils ont émis hier même que le but du processus de Nairobi, c'était de trouver une solution à la solution alarmante de la partie est de la RDC, et que ce processus, selon Uhuru Kenyatta, a connu des ralentissements ces deux dernières années. Eh bien, suite notamment à des impasses politiques, parmi elles, vous vous souviendrez, les élections de décembre 2023 et le refroidissement des relations diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi. Eh bien, selon Uhuru Kenyatta, et il a dit que dans ses rapports, bien sûr, que ce processus a noté plutôt des progrès. Mais c'était jusqu'en juin 2023, alors que la quatrième conférence du dialogue intra-congolais était sur le point d'avoir lieu, eh bien, la tension politique en RDC s'est tournée vers les prochaines élections de décembre 2023. Et du coup, tout a été presque bâclé à ce niveau-là et rien ne s'est poursuivi.
Et justement,
Ruben Lukumbuka, processus de Luanda, voilà.
Oui, oui. Justement, est-ce que ce sommet conjoint entre l'EAC et la SADC pourrait réussir, n'est-ce pas, à mettre face à face les deux présidents, Paul Kagame et Félix Tshisekedi, là où les mécanismes de Luanda n'a pas pu réussir à les faire?
Oui, je disais qu'il y a encore des doutes qui planent sur la possibilité de mettre face à face les deux présidents. Là, ici, je cite le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame. Ces doutes sont émis. Pourquoi? Parce que depuis la tentative de les mettre face à face à Luanda,
vous avez senti, mais il n'y a pas eu, disons, de progrès sur le processus même de Luanda.
Merci. Jean-Claude Katende, vous êtes avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Quelle chance peut-on accorder à ce sommet de Dar es Salaam quand on a l'impression, n'est-ce pas, que chaque fois que la rébellion soutenue par le Rwanda gagne du terrain, le Rwanda ajoute des nouvelles revendications. En plus de la question des FDLR et des discussions directes entre les gouvernements congolais et les M23, les Rwandais exigent aujourd'hui le retrait des troupes de la SADC et des troupes burundaises. Quelle chance peut-on donner à ces sommets de Dar es Salaam, maître Jean-Claude Katende?
Merci pour la question. Je pense que les deux institutions qui vont examiner, qui ont commencé à examiner la question aujourd'hui, j'estime personnellement qu'elles ne sont pas à mesure de réussir à mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, compte tenu du fait que certains tireurs de ficelles ne sont pas dans ces institutions, sont au niveau international, les multinationales, comme aussi leur pays d'origine. C'est une crise qu'on croirait congolaise ou africaine, mais les intérêts qui sont en jeu impliquent plusieurs partenaires qui ne sont pas autour de la table. Ça, c'est de un. De deux, il faudra qu'on se rappelle que la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo fait que les Rwandais tirent beaucoup de profits de cette insécurité. La sécurité à l'est du Congo, la fin de la guerre, entraînerait certainement une grande perte des revenus pour le Rwanda. Et c'est pour ça que j'estime que souvent on ne considère pas que la question de l'est du Congo pour les Rwandais, c'est une question de vie ou de mort. Et cela s'explique d'ailleurs par le fait que, à chaque tournant, le président Kagame invente d'autres conditions pour permettre à ce que la situation continue telle qu'elle est aujourd'hui. À Luanda, nous pensions que la feuille de route qui avait été définie pour, n'est-ce pas, traquer les FDLR, trouverait la solution. Mais ça n'a pas été la solution parce que le Rwanda qui a signé avec le Congo l'accord sur la traque des FDLR qui était la condition pour que le Rwanda retire ses militaires de la République démocratique du Congo, d'un coup ils ont changé pour dire qu'il faut négocier directement avec les M23. Donc vous voyez que les deux institutions, pour les raisons qui font qu'il y a d'autres partenaires qui sont intéressés à la guerre, qui ne sont pas présents, ne peuvent pas résoudre la question de la crise à l'est de notre pays. S'il y a des intérêts internationaux, les pays qui sont en jeu aussi ont des intérêts soit avec le Rwanda, soit avec la République démocratique du Congo. Et donc, ces intérêts divergents déjà au niveau des membres de ces deux institutions ne permettront pas à ce qu'on avance. Troisième chose et la dernière que je voudrais souligner, c'est la position de l'Union africaine. L'Union africaine fait semblant comme si sa propre charte n'était pas violée par le Rwanda. Et quand les documents de base de l'Union africaine sont violés, et l'Union africaine donne la ligne de conduite que toutes les autres institutions sous-régionales pourraient suivre, ne reconnaît pas l'agression du Rwanda. Or, pour la République démocratique du Congo, cette reconnaissance de dire que le Congo est agressé et que la charte de l'ONU est violée, la charte de l'Union africaine est violée, est un point de départ pour créer l'équilibre. En fait, je dirais tout simplement que l'hypocrisie qu'il y a dans ces deux institutions ne va pas permettre à ce que elle puisse trouver une solution qui mette les deux, le pays agressé et l'agresseur, à trouver un point de sortie. Merci.
Merci, Benoît Feit. Vous êtes journaliste à la RTBF. À quoi peut-on s'attendre si ce sommet conjoint EAC-SADC n'aboutit pas à un règlement pacifique de cette crise entre la RDC et le Rwanda?
C'est effectivement une excellente question. Alors, j'en sais pas plus que vous. Hein. Je ne lis pas dans l'avenir. Mais ce que je sais, c'est qu'on a ici deux échéances diplomatiques qui vont se suivre de très près. Celle de Dar es Salaam ce samedi. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si bien les deux présidents seront présents, s'il est prévu qu'ils se rencontrent. On peut vraiment en douter. On n'imagine pas le président Tshisekedi se mettre dans une situation pareille aujourd'hui, posé à côté de Kagame, alors qu'il dénonce depuis assez longtemps l'agression dont fait l'objet la République démocratique du Congo par le Rwanda. La question, c'est comment Félix Tshisekedi peut-il aujourd'hui négocier en position de force. C'est, quand on voit ce qui est sur le terrain, il apparaît plutôt affaibli dans ces négociations. Comment refuser une négociation directe avec le M23? Quelles pourront être les conséquences, les risques? C'est toutes les questions qu'il faudra réévaluer après le sommet. On sait aussi qu'il y a un autre sommet dont la diplomatie congolaise attend beaucoup. C'est ce sommet du 12 février à Addis Abeba, sommet de l'Union africaine. Maître Katende vient de rappeler que ça aussi, c'était encore dans le viseur. Mais j'ai aussi apprécié l'intervention de Monsieur Katende au sujet de l'hypocrisie de la diplomatie internationale. Parce qu'effectivement, comme il le dit très bien, des intérêts et des partenaires qui ne seront pas présents autour de la table, autour des réunions de ce samedi et du 12 février à Addis Abeba. Et on sait aussi qu'il y a des grands intérêts internationaux et occidentaux, pour le dire très clairement. Enfin, pas que, on sait qu'il y a d'autres acteurs, mais on sait que l'Occident a toujours, historiquement et encore aujourd'hui, un rôle d'influence très fort au Congo et en Afrique centrale. Que va faire cette diplomatie? Est-ce que, comme la Belgique tente de le faire, ou du moins dit qu'elle tente de le faire aujourd'hui, les lignes pourraient bouger au sein de l'Union européenne, mettre plus de pression sur le Rwanda? Ce sont toutes les questions qu'on va devoir évaluer dans les jours à venir. Je ne sais pas plus que vous comment ça va tourner. Mais pour répondre à votre question initiale, si ça ne fonctionne pas ce week-end à Dar es Salaam, si rien de concret n'en sort, si ce n'est peut-être que la promesse de se retrouver ultérieurement ailleurs, de reprendre le processus de Luanda, on peut peut-être imaginer que ça tournerait comme ça. La question, c'est que veut réellement le Rwanda et le M23? Est-ce que les annonces faites vont être suivies d'effets? Est-ce qu'on va réellement rééditer les événements de 96-97? J'ai du mal à croire que l'histoire se répète de façon symétrique. Mais je me garderai bien aujourd'hui de tirer des plans sur la comète, mais c'est sûr qu'on est à un instant crucial dans l'histoire du Congo.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le 13 février 1951, naissait un certain Enoch Zamwangana Nsangu, guitariste, auteur-compositeur de l'orchestre Zaïko Langalanga. S'il était encore vivant, il aurait le 13 février prochain 74 ans. Mais malheureusement, il est mort le 9 octobre 1992 à Kinshasa. Pour commémorer sa naissance, on va écouter l'une de ses compositions intitulée « Fonsi » et on revient juste après.
Libé la liberté na yo mwana moto fidélité a mon aposema anda ko machara na kanda ko ya mosolo baye ba kafe ba bola ba mbalaka na libo bebo se po ya bulu ka mongo komengwe ko ya kase na moke na bola la tembu tu se makanisi Olingo, se motema ya moto na moto, toko se la ticha sama kambo se fosi, kandimi yona mama nanba. Olingo, se motema ya moto na moto, toko se la ticha sama kambo se fosi, soso pembe izakite na moka.
Matima, Kalina, Olingo, Mitema, la Mitema, Mikuta, Nae, Osea, Mama, Osea, la Samana, Poya,
motema ya moto na moto tokosela Kinshasa mama mose pusi nadimi yo na mama na mbala olingo se motema ya moto na moto tokosela Kinshasa mama mose pusi soso peme ezangi te na mboka
Thank you.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la requête de la Première ministre à l'endroit de l'Inspection générale des finances pour la réduction du train de vie des institutions. Nous avons également analysé leurs approches régionales et internationales pour régler la crise dans l'Est de la RDC. Participe à cette émission Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. En ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, il est journaliste à la Radio France Internationale Kiswahili à Nairobi. Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feuillet, il est journaliste à la RTBF. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale CPI lance une demande urgente à la coopération et à la soumission d'informations de la part de tous les partenaires sur la situation en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique un communiqué de la CPI publié mercredi 5 février. Le bureau suit les événements actuels de près, y compris la grave escalade de la violence au cours des dernières semaines dans l'est de la RDC, en particulier à Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, et dans ses environs. Des sources crédibles indiquent que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et dans ses environs, y compris des civils et des soldats de maintien de la paix à la suite des mois d'affrontements entre les forces armées de la RDC et les M23 et leurs alliés, rapporte le communiqué. La situation actuelle à Goma et dans ses environs entre dans le cadre de l'enquête en cours du bureau du procureur. Ce dernier continuera d'enquêter sur les crimes présumés commis par toute personne, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité, et ne se limitera pas à des individus, des partis ou des membres des groupes spécifiques, prévient la CPI. Jean-Claude Katende, vous avez souhaité nous parler de la CPI qui lance, n'est-ce pas, cette demande à la soumission d'informations sur la situation sécuritaire en RDC. On vous écoute.
Merci pour la parole. J'ai voulu qu'on discute de cette question parce que si on doit mettre fin à cette crise qui se répète presque de manière régulière à l'est de la République démocratique du Congo, une des raisons, c'est l'impunité. Et vous savez que depuis les rapports mapping des Nations Unies, jusqu'à aujourd'hui, il y a des acteurs clés des pays qui sont en conflit aujourd'hui, mais des acteurs aussi internationaux qui sont impliqués dans la commission des crimes et qui n'ont jamais été jugés ni par les pays de la sous-région ni au niveau international. Les organisations de droits de l'homme, dont la ZADO, ont fait des plaidoyers à tous les niveaux pour qu'on mette en place un tribunal spécial pour l'Est de la République démocratique du Congo, mais nos efforts aujourd'hui n'ont encore rien produit, notamment du fait qu'il y a beaucoup d'intérêts internationaux en jeu. Comme je le disais, au niveau national, il y a eu trop peu d'efforts pour sanctionner les personnes impliquées dans la crise à l'Est du Congo, dont certaines ont été même promues à des responsabilités importantes au sein du gouvernement congolais, comme au sein du gouvernement provincial, voire même au sein de l'armée et de la police. Et ça, c'est vraiment un handicap pour, n'est-ce pas, arriver à mettre fin de manière vraiment définitive, permettez la tautologie, à cette crise qui est devenue perpétuelle. La justice au niveau de nos pays n'ayant pas fait grand chose, vous avez vu par exemple les massacres qui a eu lieu de la part de gardes républicaines contre les adeptes d'une église à Goma, on a identifié que des petits militaires qui ont été sanctionnés, mais les hauts gradés et d'autres acteurs intellectuels impliqués dans cette affaire n'ont jamais été ni inquiétés ni poursuivis. Donc, il nous reste la Cour pénale internationale. Et comme vous le savez, le Rwanda n'est pas membre de la CPI. Par contre, notre pays est membre de la CPI et les crimes qui sont commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Et pour qu'on évite d'arriver à une procédure qui ne pourrait pas conduire à la condamnation de personnes qui vont être mises en cause, l'un des travaux de la Cour, c'est de constituer des preuves sur base desquelles on va pouvoir rendre la justice contre ces personnes.
Oui, mais vous savez aussi. Après les affaires Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Bosco Ntaganda notamment, la CPI donne l'impression de ne plus, n'est-ce pas, faire de la RDC une de ses priorités. On a parlé des enquêtes qui étaient lancées à Ituri il y a de cela quelques mois. On a parlé de la réactivation d'autres enquêtes pour le Nord Kivu. Jusque-là, il n'y a pas de suite. Vous pensez que cette fois-ci, dès que la CPI parvient, n'est-ce pas, à collecter les éléments de preuve, cette institution ou cette cour peut aller jusqu'à procéder à l'émission des mandats d'arrêt pour les crimes commis au Kivu, cette fois-ci?
D'abord, je rappelle que la Cour pénale internationale rend une justice complémentaire. En fait, le travail de rendre la justice de manière principale revient aux cours et tribunaux de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, des quelques pays qui sont impliqués depuis 1993 dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Maintenant, la Cour pénale, quand elle intervient, ce n'est pas pour s'occuper des petits criminels qui peuvent être impliqués dans les dossiers, c'est de prendre les grands criminels, soit qui sont des présidents de la République, qui sont les chefs de l'armée, ainsi de suite, pour pouvoir, en fait, les poursuivre. Mais la situation en République démocratique du Congo, c'est que vous avez des milliers et des milliers de personnes, des milliers de criminels, qui sont impliqués dans les crimes internationaux commis à l'est du Congo. Est-ce que la Cour pénale a les moyens, a le temps pour poursuivre tous ces individus-là? Je ne pense pas. Donc la Cour pénale internationale va identifier certains d'entre eux les plus influents, dont les jugements pourraient avoir un impact dissuasif sur les autres. Mais au vu de ce qui se passe aujourd'hui à l'est du Congo, vous avez par exemple 3000 personnes qui ont été tuées sur un délai d'une semaine. Sans oublier qu'il y a eu d'autres massacres été commis avant. Oui, à Goma. Des 3000 personnes à Goma, je disais. Donc, sans oublier d'autres massacres qui ont été commis avant, des attaques contre les cibles civiles, des attaques contre les civils. C'est en fait des dossiers énormes. Mais je crois que dans le contexte actuel, la Cour pénale internationale a l'obligation d'agir vite. Et je pense que c'est dans cette perspective-là d'agir vite qu'on a demandé à tout le monde qui serait en possession de quelques preuves, de quelque nature que ce soit, de les soumettre à la CPI pour pouvoir faciliter cette célérité. Parce que à quoi ça sert d'arrêter les gens si, en fin de compte, on n'a pas des preuves suffisantes pour les amener, n'est-ce pas, à la condamnation? Ça ne va servir à rien. Mais je pense que la Cour pénale est en train de concilier la célérité, mais aussi avoir des preuves vraiment fiables qui pourraient lui permettre de prendre une décision pour que cette impunité qui contribue aussi à perpétuer la crise, puisse avoir une solution par le fait de la Cour pénale internationale. Et comme je l'avais déjà dit, la Cour ne peut pas s'occuper de tout le monde. C'est impossible.
Merci. Benoît Faït, qu'est-ce qu'on peut attendre de la CPI par rapport à cette démarche qu'elle vient d'initier pour la RDC, et plus particulièrement au Kivu?
Écoutez, J'ai toujours du mal à répondre à ce genre de questions parce que je ne lis pas plus dans l'avenir que vous. Non, sincèrement, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. Je rejoins aussi les doutes qui ont été émis, mais non, moi je n'ai pas d'avis particulier à vous partager sur cette question.
Merci Ruben Lukumbuka. Cette demande à la soumission des formations sur la situation sécuritaire en RDC que vient de lancer la CPI peut-il avoir quel impact sur les belligérants?
Eh bien, écoutez, merci tout d'abord pour votre question. Je pense que Maître Jean-Claude Katende l'a bien dit, l'impunité qui a élu domicile je peux dire dans notre justice au Congo. Vous avez entendu parler de une justice qui est malade. Est-ce qu'elle est guérie ou elle est agonisante? Est-ce que la CPI qui a lancé une demande à la soumission d'informations sur la situation sécuritaire en RDC depuis janvier 2022, vous vous souviendrez, la CPI elle-même avait dit, elle a indiqué qu'elle a commencé avec les enquêtes qui se poursuivent avec urgence, entre guillemets, et que les enquêteurs travaillent sur des mois d'affrontements entre l'armée congolaise et les M23, et aussi Maître Katende l'a bien indiqué, comme quoi des acteurs clés impliqués dans la crise à l'est de la RDC sont bien connus, mais il n'y a que des petits poissons qui sont arrêtés. Par exemple, les cas des massacres de ces disciples-là de Wazalendo à Goma. Et malheureusement, disons, les acteurs clés ne sont pas pris. Donc, ce que je peux dire, je ne pense pas que la CPI peut arriver à avoir des éléments. C'est vrai, ils peuvent avoir des éléments, mais est-ce qu'ils vont arriver à ce qu'ils cherchent? Moi, je pense qu'il y a ce manque d'abord de volonté de poursuivre ces acteurs. Il faut tout d'abord qu'on mette en place un tribunal spécial pour l'est de la RDC. Là, je mentionne la région de Beni et l'Ituri. Il faut tout d'abord qu'on suive, qu'on ait établi ces demandes et ces propositions qui avaient été déjà émises par les activistes des droits de l'homme au Congo. Et puis, notre justice, est-ce qu'elle est fiable aussi? Voilà, donc il y a plusieurs choses qui peuvent me mettre dans la possibilité donc d'argumenter sur mon doute. C'est ce que je peux dire à ce niveau.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Luciana, cette composition des mots perreux, et on se retrouve juste après.
Ah, Luciana, maman, à la fille.
Go, 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 go.
Je t'aime, boy.
Moi, la kenda, sango, go, go, go.
Je t'aime, maman. Kenda,
Luciana oh Luciana oh yo mote mananga yo
mama yo mama
yo mote mananga mama
yo mama
yo mote mananga yo mama
toro tai na tege
mama
mama ta foi a tege
yo
mama to mo putana mama
mama
pita ko bina mene
yo mote mananga yo mama toro
tai na tege
mama mama
pita suri.
C'était Luciana, cette composition de Mopero Amaloba dans l'orchestre Shama Shama Kavasha qui a fait parler de lui pendant la décennie 70. Je rappelle que nous avons dans cette émission Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH. En ligne depuis Nairobi, capitale du Kenya, Ruben Lukumbuka, il est journaliste à la Radio France internationale Kiswahili à Nairobi. Et en ligne également depuis Bruxelles, capitale de la Belgique, Benoît Feit, il est journaliste à la RTBF. L'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Wondo a été libéré dans la nuit du 4 février après une longue audition par la justice militaire. Il a quitté Kinshasa cette même nuit pour Bruxelles en Belgique. Selon son avocat Carlos Mwapichi, cette libération est d'ordre humanitaire pour permettre à son client de se faire soigner après plusieurs sollicitations sans résultat escompté. Le 27 janvier dernier, Jean-Jacques Wondo a été condamné à la peine de mort et ne s'est pas pourvu en cassation. La cour militaire de Kinshasa avait confirmé en effet la peine de mort prononcée en septembre 2024 contre Jean-Jacques Wondo pour sa participation présumée à une tentative de coup d'État en RDC. Ce verdict en appel avait suscité une réaction immédiate de la Belgique. Dans un communiqué publié sur le compte X du ministère belge des Affaires étrangères, Bruxelles exprimait sa grande déception et une totale incompréhension face à ce verdict, évoquant la grande faiblesse des éléments présentés lors des audiences et l'absence manifeste des preuves crédibles. Benoît Feit, vous avez souhaité nous parler justement de la libération de Jean-Jacques Wondo. On vous écoute.
Oui, écoutez, en fait, cette affaire, je ne sais pas si elle a fait beaucoup de bruit en République démocratique du Congo, mais elle a fait beaucoup de bruit en Belgique depuis l'arrestation de Jean-Jacques Wondo au mois de mai dernier, donc dans la foulée de la tentative de coup d'État que l'on prête à Christian Malanga. Et depuis lors, c'était un peu la surprise générale, parce que le profil de Jean-Jacques Wondo est connu en Belgique comme un expert militaire, quelqu'un d'assez posé. C'est une personne ressource pour de nombreux médias depuis de nombreuses années, et la plupart des journalistes apprécier le caractère posé et nuancé de Jean-Jacques Wondo. Alors, quand on a appris qu'il était accusé d'avoir trempé dans un coup d'État, c'était la surprise générale. Et la surprise s'est accentuée au fil des mois, quand on a réalisé qu'au sein de... dans le dossier d'accusation, il n'y avait pas grand-chose, voire rien du tout. On a même réalisé qu'il y avait, à certains endroits, le ministère public qui avait caché certains témoins. On se souvient de cette affaire rocambolesque de Maloucha que l'on a retrouvé en prison alors qu'on prétendait qu'il avait disparu et qui était pourtant un témoin clé censé charger Jean-Jacques Wondo. Donc on a réalisé par après que tout ça était une bombe de machination. Donc quand Jean-Jacques Wondo a été condamné à la peine de mort pour la première fois, c'était déjà la surprise, mais quand le verdict a été confirmé en appel, là on n'y comprenait plus rien. Ce que l'on savait, c'est que depuis un certain temps, la diplomatie belge se mobilisait fortement auprès de Kinshasa, des autorités de Kinshasa, pour d'abord soutenir Jean-Jacques Wondo et ensuite s'arranger pour qu'il y ait un jugement, un verdict et une justice bien rendue. Et de toute évidence, ça n'a pas été le cas. Alors, on se souvient tous ici des propos du chef de l'État au sujet de la justice congolaise qui était malade. Et c'est donc ce qu'on a fini par se demander, c'est voilà, quand on a libéré Jean-Jacques Wondo, c'était officiellement pour raison humanitaire, mais même ça, c'est un argument difficile à comprendre, parce que si on s'inquiète de la santé d'un détenu, on ne le condamne pas à mort pour l'exécuter, c'est un peu antinomique. Donc on se rend bien compte que là derrière, il y a une décision de la justice militaire congolaise, rappelons-le, que l'on ne s'explique toujours pas rationnellement ici en Belgique. Donc on était très soulagés de voir Jean-Jacques Wondo libre, sa famille, ses amis, ses collègues aussi, qui s'étaient fortement mobilisés autour de son cas ces derniers mois. J'étais à la gare du Midi quand il est arrivé. Il y avait vraiment une grande émotion, en ce compris chez Jean-Jacques Wondo, qui a passé près de 9 mois en détention dans des conditions que je ne dois pas vous décrire. Il a perdu de nombreux kilos. Voilà, donc c'est d'une part le soulagement, parce que c'est une histoire qu'on n'arrive pas à s'expliquer, qui se termine bien, mais on sait aussi que Jean-Jacques Mundo a la volonté de continuer à laver son honneur, comme il dit, et parce qu'il continue à dire qu'il est parfaitement innocent. Il voudrait que la justice congolaise, tôt ou tard, le reconnaisse comme tel. Et par ailleurs, on a aussi eu le sentiment que ce dénouement a facilité grandement les relations belgo-congolaises. J'ai assisté à la conférence de presse de la ministre des Affaires étrangères congolaise et de son homologue belge, Yatsa, deux jours à Bruxelles. Et clairement, l'un et l'autre affichent une grande entente. La Belgique a affirmé de façon très claire qu'elle ne pratiquait pas d'équidistance, mais qu'elle, dans le cas du Congo, il y avait un agresseur et un agressé. Donc la Belgique a également accepté de plaider au sein de l'Union européenne pour qu'il y ait des sanctions à l'égard du Rwanda. Donc on se rend bien compte que le cas Jean-Jacques Mundo, le dénouement de cette affaire, facilite grandement les relations belgo-congolaises, parce que là, ça risquait effectivement à un moment de devenir un petit peu compliqué.
Oui, Benoît Faït, que répondez-vous à cette opinion selon laquelle Jean-Jacques Mundo a été utilisé comme monnaie d'échange?
Ben, écoutez, c'est difficile à affirmer. Je ne pense pas qu'il y ait eu réellement une volonté du gouvernement congolais d'utiliser le cas Mundo. Je pense que, au contraire, l'analyse n'engage que moi, mais je pense qu'au contraire, cette affaire ennuyait fortement la diplomatie congolaise, qui aurait souhaité avoir peut-être les mains plus libres pour entamer un vrai rapprochement avec la Belgique, comme on a vu que ça a été fait dans les dernières heures. Moi, j'ai plutôt l'impression que la justice militaire congolaise a joué contre son propre gouvernement dans cette affaire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer.
Merci, Jean-Claude Katende. Quelle leçon peut-on tirer de cette affaire, Jean-Jacques Mundo?
Bon, je pense que d'abord, je me permets de dire que, en tant que représentant d'une organisation de droits de l'homme, nous avons toujours combattu la peine de mort depuis qu'elle a été réhabilitée, parce que nous estimons que c'est une atteinte à la vie, mais en même temps aussi la Constitution de la République démocratique du Congo est claire là-dessus. La première leçon qu'on peut tirer, c'est de dire que la libération de M. Mundo n'est pas éloignée des événements qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. On l'a souligné, au sein de l'Union européenne, la Belgique portait à cœur l'agression de la République démocratique du Congo. Je pense que parmi les membres de l'Union européenne, la Belgique est allée quand même très loin en tant que pays. D'abord, il y a cette question d'échange d'ambassadeurs, et il y a la question de sanctions que la Belgique contre le Rwanda, bien sûr, soutient. Et d'un coup, cette affaire est venue jeter un discrédit sur les relations entre les deux pays. Et je pense que pour que la diplomatie belge reprenne le fait de porter les dossiers de la crise à l'est du Congo dans d'autres instances, il fallait réparer cette affaire et trouver une raison de soins, une raison humanitaire pour en fait arriver à ce que la justice aurait dû faire depuis bien longtemps. Ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, j'estime personnellement que notre justice, dans ces dossiers de coup d'État, n'avait pas, en fait, conduit des enquêtes de manière à ce que les preuves soient vraiment réunies contre chacune des personnes impliquées dans ces dossiers. Cette insuffisance des preuves a permis tout simplement à la justice d'expédier les dossiers le plus rapidement possible. Mais compte fait, je pense qu'il faut se féliciter de la décision qui est prise. Nous avons besoin de la Belgique pour nous accompagner dans notre quête de paix à l'est de notre pays. Je crois que c'est une bonne chose, mais il est important qu'à un moment donné, notre justice cesse de se faire instrumentaliser par les politiciens. Elle doit montrer une certaine indépendance. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que j'estime personnellement a manqué dans ce dossier. Merci.
Merci Ruben Lukumbuka, nous allons finir cette émission avec vous. Est-ce que vous avez été surpris par la libération de Jean-Jacques Mundo ou c'était pour vous quelque chose de prévisible?
Écoutez, J'ai été personnellement surpris, bien sûr, d'ailleurs, d'entendre le nom de Jean-Jacques Wundo cité, disons, parmi les condamnés à mort, arrêté le mois de mai 2024. Eh bien, jusque, disons, avant-hier, on en arrive à une absence de preuves crédibles pour le condamné. Pour moi, c'était une grande surprise et aussi une joie d'entendre que il a été finalement libéré, parce que j'étais en train de suivre, disons, le processus en question depuis qu'il a été arrêté. Mais le jour où j'ai appris qu'il a été libéré, qu'il est libre, franchement, j'étais très content.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Benoît Feit, Ruben Lukumbuka, Maître Jean-Claude Katende. Merci aussi à Billy Landry Betou qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Ligna, une autre composition des noms Kezamwangwana, dans l'orchestre Zaïko Langalanga, une façon pour nous de continuer à commémorer, n'est-ce pas, sa naissance à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. On écoute donc Ligna et on se retrouve le samedi prochain.
Mama, imbala maboko, po ambasi gabi ya ngopeta.